Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
Ravi de vous retrouver cette semaine sur Sud Radio. Nous sommes encore sous surveillance de l'ARCOM pour cause de trêve électorale. Mais soyez sans crainte, politique sous influence va continuer à vous parler politique, politique et influence, mais autrement, en parlant d'histoire, en parlant de science, de médecine, de renseignement même, de géopolitique. Et oui, rien que ça. Est-ce que la pandémie de Covid est derrière nous, par exemple? Que faut-il penser des vaccins? Que nous apprend le recul de l'histoire à ce sujet? Le journaliste et écrivain Marc Menant va nous éclairer et nous aider à prendre du recul. Combien de temps l'unanimité des Européens et même celle des Occidentaux va-t-elle durer et tenir face à Poutine? Poserons la question à Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS. Le blé ne peut plus sortir d'Ukraine ni de Russie par la mer Noire. Est-ce que cela signifie que le monde court vers la famine? Thierry Pouche, économiste à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, nous répondra. Enfin, vous découvrirez, grâce à Baptiste Robert, fondateur de la société Predicta Lab, exactement, que l'on peut suivre à la trace sur les réseaux. On peut vous suivre et vous retrouver uniquement avec un téléphone. Vous allez voir, c'est stupéfiant. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous écoutez Politique sous influence, l'émission qui déchiffre notre époque. Voilà, bonjour Marc Menant, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour à tous les deux, bonjour. Merci de m'accueillir.
Merci beaucoup, vous connaissez Juliette Briens, elle vous connaît, elle était intenable.
Grande
elle
intenable, non mais vraiment,
je vous regarde
très souvent, je vous admire beaucoup.
Donc vous avez des admiratrices de tous âges, je tenais à vous le dire. On ne vous présente plus, votre visage, votre voix sont familiers des Français, votre faconde, votre truculence aussi, puisque vous comptez chaque soir, ou presque sur CNews, un épisode de l'histoire et vous dressez le portrait d'un grand personnage. C'est un journaliste à l'esprit et à la curiosité insatiable. Votre dernier livre est consacré à ce que vous appelez l'inquiétante histoire des vaccins aux éditions Plomb, un livre que je ne saurais que trop recommander. Et d'ailleurs, peut-être que le titre est un peu trompeur, parce qu'il est question de bien d'autres choses que des vaccins, finalement.
Oui, alors, disons que c'est une fantaisie de mon éditrice. Je l'attaque dès le départ.
C'est tout de suite la faute des femmes.
Le titre en soi est un peu inquiétant pour beaucoup, j'imagine. Non,
oui, parce que là, vous faites le malin, parce qu'il n'y a pas Christine Kelly, mais Juliette Briens, c'est pire.
Non, mais c'est-à-dire que cette... Le débat, effectivement, les vaccins, puisqu'il y a une sorte d'écho au Covid. Mais il faut bien comprendre que je traite très très peu du Covid, il y a juste un petit chapitre, le reste, je fais l'histoire.
C'est ça.
Comment les vaccins sont nés? D'où nous viennent-ils? Ont-ils véritablement été la panacée qui aurait éradiqué nombre de maladies? Je mets tout ça en perspective. Comment vivait-on à l'époque? Quelles étaient les conditions climatiques, etc., etc. Et pour revenir à votre question, c'est vrai que je vais beaucoup plus loin parce que une fois que l'on a traité la moitié du livre, les vaccins, je glisse naturellement à ce qui a été, je dirais, le fruit de la vaccination, à savoir l'idée que nous sommes menacés par des ennemis. Alors, il y a les microbes, les contagions, mais il y a les ennemis qui sont les maladies, les cancers, etc. Ça vous tombe dessus, mais vous n'en êtes pas responsable. De là, la lutte. La lutte, il nous faut des armes. Les armes, ce sont les molécules. Et on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça, car là encore, je rameux tous les chercheurs qui mettent en évidence, eh bien, malheureusement, les dysfonctionnements liés aux molécules et l'aberration de s'inscrire dans ce principe de lutte, alors que nous sommes très souvent les auteurs nous-mêmes, c'est terrible à dire, mais des dysfonctionnements qui sont les maladies.
Sur cette idée qui me semble l'idée clé, en fait, c'est un peu un livre sur la philosophie de la médecine, finalement.
Oui, oui.
Et je pense, faut dire à votre éditrice, que le titre est pas si bon que ça, parce que, bien sûr, il est question des vaccins, c'est sûr, mais quand on voit le titre, on se dit, oh là là, c'est un livre de vaccino-sceptique. C'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous n'êtes pas fondamentalement contre les vaccins, mais vous nous dites par exemple que ce qui est arrivé avec le Covid est arrivé déjà à l'origine de la vaccination. Il faut reprendre cette histoire de Pasteur. C'est l'homme par qui le vaccin va arriver, mais le scandale va arriver aussi tout de suite.
Alors, il y a eu d'abord ce que l'on appelait la variolisation. Là, ça remonte à des siècles, des siècles et des siècles, mille ans.
Avec des traitements traditionnels.
Voilà, qui sont tout simplement, c'était chez les Chinois, où on grattait le pus des personnes infectées et on injectait ce pu à ceux qui potentiellement risquaient d'être exposés.
C'est incroyable. Dès que les Occidentaux ont inventé quelque chose, on se rend compte que les Chinois l'avaient inventé avant eux.
Oui, mais
d'une certaine manière.
Oui, mais avec un drame épouvantable, c'est qu'on ne faisait qu'inoculer la maladie. Donc malheureusement, ça ne résolvait pas
ça
du tout
pas
le problème.
Coups, oui.
Et pour autant, eh bien, il y a une sorte de contagion qui se fait, un cheminement qui arrive jusqu'à la Turquie. Là, l'ambassadrice d'Angleterre repère cette façon d'endiguer théoriquement l'épidémie. Elle importe ça en Angleterre. Et disons que là, ça rayonne sur toute l'Europe. Et il y a Tronchin à Genève, médecin hygiéniste très intéressant, qui est le médecin de Voltaire.
Oh, allez, essayez. On va faire revivre les personnages. C'est incroyable.
Non, parce que c'est ça qui m'intéressait. Je voulais pas un livre tel une ordonnance. Je voulais un livre qui vive, un livre avec des personnages, qu'on les voit, qu'on sache qui ils sont, comment ils travaillent. Et quand on dit aujourd'hui, oui, les conséquences de la vaccination, c'est parce que derrière, on a les gros labos qui veulent faire du pognon. Oui, ils veulent faire du pognon. Mais tout le monde veut faire du pognon.
Bien sûr.
Vous fabriquez des chapeaux, vous avez envie de vivre de vendre des chapeaux.
C'est assez banal.
Voilà.
Marc, est-ce que vous reconnaissez ici la merveille incroyable qu'a été cette invention du vaccin qui a absolument changé le monde ?
Ben non, justement, c'est ce que
vous
je conteste.
Vous ne la reconnaissez pas.
Mais moi, c'est pas moi. Moi, je n'ai aucune importance. C'est quand on fait de la philosophie, c'est pas je suis un tel et je pense que. Je m'absous de ma propre pensée. J'essaie de me placer dans une construction extrêmement logique, la plus pertinente possible, et qui soit comme une démonstration de mathématiques. À la fin, j'arrive à la conclusion, voilà ce qu'est la liberté. Non pas en fonction de ce que je pense, mais en fonction d'un absolu. Et là, j'ai repris chacun des vaccins dans leur histoire. Et pour répondre à Guillaume, en l'occurrence, donc, oublions la variole. La variole deviendra vaccin, mais elle reste la variole, c'est qu'on génère en Angleterre, observe que les petits paysans, eux, échappent à la maladie. Et là, ils se sont dit, mais il y a la vaccine qui concerne les animaux, c'est sans doute une maladie cousine, et ça immunise. Et là, au lieu de prendre le pu des individus touchés par la variole, ils scarifient des petits veaux. De là, il injecte la bactérie et ensuite on développe et on injecte cet élément. Mais là encore, il n'y a aucun procédé qui permet d'éviter toutes les autres bactéries et donc on a des maladies. Et le Drivax, le vaccin, n'apparaîtra qu'à la fin du 19e siècle, après Pasteur.
Mais si on prend les maladies qu'on a éradiquées, celles des vaccins obligatoires, la polio, la tuberculose...
Ben non, c'est là où je prends histoire par histoire. Mm-hmm.
Mais si on revient à Pasteur,
qu'il faut comprendre.
Ce qui est assez étonnant avec Pasteur, pour décentrer le problème du Covid, c'est qu'il y a beaucoup de coordonnées qui se ressemblent. C'est-à-dire que vous dites finalement, oui, ce vaccin fonctionne, mais attention, il y a relativement peu de gens qui sont mordus par des chiens enragés, qui vont eux-mêmes d'abord contaminer, mais qui vont eux-mêmes développer une rage qui va être mortelle. Donc c'est assez difficile, et beaucoup plus difficile qu'on l'imagine, de prouver l'effet de la vaccination. Et dès le départ, on va accuser Pasteur, y compris d'avoir tué des gens avec son vaccin.
Alors, c'est pas, on ne l'accuse pas, on constate. Là encore, ça n'aura aucun intérêt. Il faut différencier deux formes de vaccins. Le vaccin contre la rage est un vaccin curatif. Les vaccins que l'on nous inocule en général...
On a déjà la maladie.
On a déjà la maladie. Ça veut dire que votre système immunitaire, avant le traitement, est déjà en branle pour trouver une réponse à l'intrus qui vous a infiltré. Bon. Théoriquement, pour essayer de savoir, comme la rage est en général à 99% éliminé par une réaction naturelle du système immunitaire.
C'est là où on voit l'analogie d'ailleurs avec le Covid.
Mais dans toutes les épidémies, dans toutes, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit constamment que seules les circonstances, d'ailleurs Pasteur arrivera à cette conclusion après avoir lutté contre la maladie du charbon qui frappait les bêtes, entre autres dans les élevages du côté de Chartres, il dit même si on est infecté par le virus, il faut des circonstances car la maladie se développe quelle que soit l'attitude que l'on puisse avoir vis-à-vis d'elle. En l'occurrence, ce qu'il avait prôné, c'était de faire la différenciation entre les champs où l'hécatombe se manifestait et les autres. Il est surpris, il voit, il regarde. Mais les deux champs sont contigus. Là, dans un champ, il y a des bêtes qui crèvent et à côté, il n'y a rien du tout. C'est quand même étonnant. Et il s'aperçoit que dans les champs où les bêtes crèvent, il y a des zones où l'herbe, elle n'a pas la même couleur que sur l'ensemble de la superficie. Alors, mais que se passe-t-il ? Il interroge les paysans. Il dit, ben là, sur les endroits où on enfouit les cadavres des bêtes pas crevées, mon gars. Et alors, paf ! Il dit, mais...
Et là, il y a un rapport de cause à effet.
Voilà, et il dit, ce sont les vers de terre qui font remonter les éléments, qui infiltrent, etc. Mais même une fois qu'il a repéré cela, il infecte des foins avec les bactéries et il ne se passe rien. Alors, il va plus loin dans l'observation et il s'aperçoit que les chardons sont dans la prairie et que ceux-ci, quand on marche, ils vont créer des césures dans les gencives et qu'à partir de là, il peut y avoir une infiltration. Donc il refait l'opération en mettant des chardons dedans et pour autant, toutes les bêtes ne crèvent pas. Et c'est là qu'il arrive à cette conclusion que la maladie se manifeste selon les circonstances, mais la bactérie, à l'époque on appelle ça d'ailleurs les animoncules, il n'y a pas de nom véritable, eh bien l'animoncule, on n'a pas encore compris
les bactéries, les virus, etc.
Non, on appelle ça l'animoncule. Bon, alors ça c'est, et la mesure qu'il prend, il demande à ce que les bêtes ne soient plus enfouies, les cadavres ne soient plus enfouis dans les prés, l'épidémie s'arrête immédiatement, et pour autant... Il a la certitude dans sa tête que le principe de l'ennemi a lutté alors qu'il vient d'arriver à une conclusion qui contredit son hypothèse initiale qu'il faut inventer un vaccin. Très rapidement, il en bricole un, il impose que ce vaccin soit imposé à toutes les bêtes. Et il dit, regardez, c'est grâce au vaccin que ça a guéri. Or non, c'est grâce à une décision de sous-préfet qui était de prendre une mesure d'isolement. Mais il nous faudra revenir deux secondes sur l'OBCG.
C'est ça, la question, c'est de savoir quelles sont les causes, quels sont les effets.
Voilà, bon. Et c'est pour ça que dans quelles conditions on vit, je prends l'épidémie de peste au départ. Pourquoi l'épidémie de peste frappe-t-elle de façon si dramatique, par exemple en 1342? Et là, c'est la petite ère glaciaire, j'ai refait des recherches,
les saisons,
etc.
Bien sûr. Je rappelle que vous avez publié l'inquiétante histoire des vaccins aux éditions Plomb, et puis comme on vous aime bien, on va vous confiner, vous allez rester jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, la guerre en Ukraine, j'imagine, vous intéresse, vous pensez que dans ce bras de fer, l'Occident va l'emporter ou pas? On va poser en tout cas la question à Sylvie Matelli, qui est la directrice adjointe de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
Bienvenue de retour sur Sud Radio, bonjour Sylvie Matelli, bienvenue sur Politique sous influence. Vous êtes la directrice adjointe de l'IRIS, c'est un think tank français consacré à la géopolitique, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Parfait. Alors, pourquoi l'Ukraine est-elle si vitale aux yeux de Vladimir Poutine ? C'est la première question qu'on a envie de vous poser. En fait, on a l'impression que il n'y a plus aucun calcul, j'allais dire, économique, rationnel, tactique qui compte. Enfin, il a joué son va-tout.
Oui, tout à fait. Je crois que pour comprendre pourquoi l'Ukraine est aussi importante aux yeux de Vladimir Poutine et des dirigeants russes, il est utile de rappeler la petite anecdote. Vous vous souvenez la déclaration qu'avait faite Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, il y a quelques semaines, qui nous demandait, nous Français, mais que feriez-vous, vous, si les Belges interdisaient la pratique du français? Et là, on était resté un petit peu coin en se disant, bah, que ferions-nous? On n'enverrait pas nos chars, ça c'est certain.
Oh, c'est pas sûr, hein.
Je ne pense pas.
Malheureusement,
mais si les Flamands martyrisent des francophones, moi je réagirais, hein, personnellement. Mais...
Oui, on réagirait, mais peut-être pas tout à fait de la même manière.
On commencerait par la diplomatie, on est d'accord.
Tout à fait. On commencerait par la diplomatie, complètement. Je pense qu'on est en Russie face à des dirigeants aujourd'hui qui sont quand même encore des dirigeants issus de la guerre froide, de cette grande époque où finalement la Russie, l'Union soviétique dominait la moitié du monde et que depuis une trentaine d'années, ils voient cette domination s'effilocher, un certain nombre de satellites, puisqu'on les appelait comme ça, ces pays, s'éloigner progressivement. Alors s'éloigner en souhaitant adhérer, hein, il y a eu l'adhésion à l'OTAN qui a fortement fâché la Russie, mais aussi il y a s'éloigner en termes de valeurs, la volonté de se démocratiser, de vivre à l'occidental ou autre, et c'est interprété par ces dirigeants russes qui ont un autre mode de pensée que ce que moi je considérais comme un mode de pensée 21e siècle, c'est considéré qu'au fond on perd la puissance. Et quand je vous dis mode de pensée 21e siècle, je ferai peut-être le parallèle avec la Chine. Pour la Chine, la puissance et l'influence aujourd'hui, elles se fondent essentiellement sur le développement économique et technologique.
Enfin, pour les États-Unis, qui ont la 5e, 6e, 7e flotte et 3/4 de l'armement mondial, on a quand même un petit peu l'impression que la puissance se fonde aussi sur la capacité à aller agresser n'importe quel pays si le Congrès vote dans ce sens, non ?
Oui, tout à fait. Je ne vous ai pas dit que les Occidentaux n'avaient pas pour certains enfin, le même logiciel. Hein. On est tout à fait d'accord.
Ok. Est-ce que finalement, là, on a eu cette photo de famille un peu avec le président roumain, le président français qui préside l'Union européenne, le chancelier allemand et Vladimir Zelensky à Kiev. Est-ce que donc ça révèle une sorte d'unanimité ? Cette unanimité va-t-elle tenir ? Il y a ce tweet que j'ai trouvé complètement insensé que Juliette va nous rappeler.
Dimitri Medvedev qui a tweeté : les amateurs européens de grenouilles, de saucisses, de spaghettis adorent visiter Kiev. Utilité zéro. Ils promettent à l'Ukraine une adhésion à l'UE, puis ils s'enivrent d'alcool ukrainien et ils rentrent chez eux en train comme il y a 100 ans. Tout va bien, mais ça ne rapproche pas l'Ukraine de la paix. L'horloge tourne.
Alors là, et c'est là-dessus qu'on voulait vous interroger. Qu'est-ce que ça veut dire que cette horloge tourne ? Est-ce que ça veut dire qu'ils font le pari que l'unanimité des Européens et des Occidentaux, et peut-être même d'autres phénomènes, jouent en faveur des Russes, finalement ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, cette horloge tourne ?
C'est probablement ça, effectivement, mais je pense que il y a une part de réalité. On l'a vu hein, dans un certain nombre d'événements qui se sont produits depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Je pense en particulier à tous ces pays qui n'ont pas voulu soutenir les sanctions occidentales et qui nous ont dit quelque part, mais attendez, à un moment donné, c'est pas notre façon de pratiquer. Je suis pas sûre qu'ils se sont complètement opposés d'ailleurs à cette union et à ce monde occidental. Je pense simplement que ils nous ont questionnés sur l'efficacité des sanctions, les conséquences qu'ils allaient avoir à payer de ces sanctions. Et on le voit aujourd'hui avec les problèmes qu'ils ont à s'approvisionner en biens alimentaires et à la famine qui menace. Donc il y a tous ces éléments-là. Et je pense que les Russes sont convaincus que de toute façon, tôt ou tard, on ne sera pas assez fort prêt à accepter à payer le prix qu'aura notre positionnement dans cette guerre, et donc on va se diviser. Et en se divisant, on va s'affaiblir. Pour l'instant, force est de constater qu'il y a eu des dissensions, oui, qu'il y a eu quelques divisions, mais qu'on tient le choc.
Mais que ça tient.
Et moi, ce que je vois aussi, et on en parle assez peu hein, dans la presse française ou en France, je vois aussi quand même une Chine bien plus prudente dans son soutien à la Russie qu'il y a 3 mois. Donc là aussi, ça pourrait questionner les Russes. Est-ce que aussi, pour eux aussi, l'horloge ne tourne pas ?
Et qui va gagner cette guerre, au fond ? Est-ce que c'est possible de la gagner et qui va la gagner ?
C'est une excellente question. Je ne suis qu'économiste qui s'amuse à faire de la géopolitique de temps en temps parce que je baigne au milieu de géopoliticiens et j'ai aucun don de voyance, donc j'aurais du mal à le comprendre.
Non, mais on apprécie les rapports de force, disons. Alors, il y a des rapports de force économiques qui jouent, vous l'avez rappelé, mais il y a aussi des rapports de force militaire. Là, pour l'instant, dans quel sens va cette fameuse horloge ?
Oui, moi j'ai l'impression que au-delà des rapports de force et surtout des rapports de force militaires, il y a deux mondes en fait qui s'opposent et deux scénarios qui s'opposent. Un scénario finalement de l'ouverture, de l'universel et du ralliement d'un certain nombre de pays à un certain nombre d'intérêts. Et puis un scénario du repli sur soi où chacun se replie sur soi. Et dans le scénario du repli sur soi, ce que je vois, c'est une guerre qui va être très très longue, qui ne sera gagnée par personne. Il y aura toujours un vainqueur à la fin, mais je pense qu'il n'y aura que des perdants en réalité. Donc il faudrait vraiment aussi prendre conscience de ça et apprendre à écouter et à écouter tout le monde. Encore une fois, on disait tout à l'heure que la Chine est quand même très très prudente dans son soutien à la Russie aujourd'hui parce qu'il y a des intérêts économiques.
Et sûrement aussi parce qu'elle considère l'intervention comme un échec. Si l'intervention avait été un franc succès, peut-être que la Chine aurait été moins frileuse.
Oui et non, très, très certainement elle aurait été moins frileuse, elle a quand même des intérêts économiques en jeu qui sont assez importants. Il ne faut pas oublier dans le cas de la Chine que dans l'affrontement qu'il oppose aux États-Unis et qui est mis en scène hein, des deux côtés en Chine et aux États-Unis, il y a deux dossiers qui les conduisent à vraiment coopérer et travailler ensemble. C'est le dossier économique et encore plus en période d'inflation. On a vu Joe Biden essayer d'évoquer le fait que la guerre commerciale était peut-être contre-productive face à l'inflation américaine. Et il y a le dossier environnemental. Et donc, on est face à quand même deux grands pays qui sont extrêmement pragmatiques, extrêmement attentifs à leurs intérêts et qui les défendront jusqu'au bout. Je pense que ça intervient très fortement dans les positionnements de chacun.
Alors Marc Pounot a une question à vous poser, il la posera juste après la pub, voilà. Mais peut-être en 15 secondes, vous avez des sites à conseiller à ceux qui nous écoutent, des sites pour se renseigner sur la guerre, des sources?
Oui, tout à fait, déjà le site de l'IRIS et toutes nos lectures et nos podcasts. Les sites des médias, hein, que ce soit Radio France, que ce soit les Sud Radio ou autres, les sites d'information, avec toujours beaucoup de prudence, bien évidemment, quand on regarde de l'information, parce que y a aussi de la propagande sur les sites de médias et au-delà.
Mais
il faut s'informer, il faut lire, il faut écouter.
Il faut aller sur le site de l'IRIS. On vous retrouve juste après la pub et avec la question de Marc Menant.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias.
Voilà, nous sommes de retour dans Sud Radio, politique sous influence.
Dans Sud Radio.
Non, sur Sud Radio. Dans politique sous influence.
Voilà.
Géopolitique sous influence. Je
veille au blé.
Le test
puisque c'est le sujet de la journée.
Parfait, transition très 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 habile. Bonjour Thierry Pouche, vous êtes économiste, soyez le bienvenu. Dont politique sous influence sur Sud Radio. Vous êtes chercheur, chef du service des études économiques de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et nous sommes encore en liaison avec Sylvie Mattei, la directrice adjointe de l'IRIS. Et donc on est en plein dans cette problématique de la guerre russo-ukrainienne, de ses conséquences à long terme. Sylvie Mattei, vous nous disiez que finalement le temps était un facteur clé dans ce conflit et que les pressions exercées par la Russie pouvaient se déployer dans le temps et que pour l'instant l'unité de l'Occident était maintenue. Et alors avec M. Pouche, on va voir qu'il y a l'unité de l'Occident, mais il y a aussi la réaction de bien d'autres pays dans le monde. Parce que l'un des chantages exercés par M. Poutine, c'est le chantage du blé. Vous êtes d'accord, Mme Mattei?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et en plus, il intervient ce chantage dans une situation qui était déjà très compliquée sur les marchés des matières premières et en particulier des produits agricoles. Donc on est clairement dans une situation qui peut se révéler bien plus dramatique qu'elle ne l'est aujourd'hui, hormis peut-être pour l'Ukraine et les Ukrainiens, bien évidemment.
Est-ce que la guerre russo-ukrainienne fait courir au monde un risque de famine? On a été très alarmés avec Juliette Briens, on n'est pas les seuls, par toute une série, une rafale de tweets très alarmistes qui venaient du secrétariat général des Nations Unies, qui venaient de la FAO, qui venaient aussi du pape, qui s'est inquiété d'un risque de famine mondiale. Pour vous, le risque est exagéré ou ce qui se passe aujourd'hui en mer Noire, c'est-à-dire l'impossibilité d'acheminer du grain russe et ukrainien, c'est effectivement un risque de famine?
Je crois qu'il faut distinguer effectivement les volumes qui sont disponibles, qui sont encore très importants. On sort d'une campagne 2021-2022 où on a quand même 2,3 milliards de tonnes de grains, dont 780 millions de tonnes de blé. Donc de ce point de vue-là, il y a de quoi nourrir la population. La grosse difficulté... Oui, on peut se rassurer de ce point de vue-là. Pour l'année 2022-2023, il y aura un tassement d'après les premières estimations sur la production, mais ça ne sera pas de toute façon aussi un décrochage aussi important qu'on aurait pu le croire. En revanche, c'est effectivement sur les problèmes de logistique que les problèmes se posent, les ports ukrainiens...
Donc il y a la quantité, mais il faut la sortir et la distribuer.
Il faut la sortir, voilà. Et quand on sait que l'Ukraine, c'est quand même 10% des exportations mondiales et 18% des exportations mondiales de maïs, effectivement, ils ont des clients importants du pourtour méditerranéen. Donc si on les prive par la voie du blocus maritime...
Parce qu'il faut dire que techniquement et économiquement, les deux sont liés, l'exportation par céréalier et par la mer est peut-être, je ne sais pas, 3, 4, 10 fois plus rentable et plus efficace que par d'autres moyens.
Alors, il y a une question de rentabilité, mais il y a surtout une question de disponibilité. Quand vous avez le port d'Odessa, qui est quand même un port en eau très profonde et qui peut accueillir des navires très importants, ce qu'on appelle des Panamax, qui peuvent charger 65 000 tonnes de blé, contre un train qui au maximum peut en avoir 3500 tonnes. Donc là, il y a un décalage assez important. Donc la voie ferroviaire, elle peut être utilisée.
Un camion citerne et un verre d'eau, c'est pas la même contenance.
Voilà, c'est à peu près le type de comparaison qu'on peut faire. Mais les trains peuvent être exposés au bombardement. Il y a des problèmes d'écartement des rails qui sont très anciens. Il y a une insuffisance de trains pour charger ces grains. Et en plus, il faut les acheminer notamment vers la Roumanie. Mais la Roumanie n'a pas forcément les moyens, les capacités à accueillir le grain ukrainien dans la mesure où ils ont eux-mêmes une récolte qui s'annonce d'ailleurs très bonne, qui va arriver.
C'est l'ironie, ça, parce que la récolte est très bonne, voilà, mais on ne peut pas la sortir.
Voilà. Alors sinon, il y a la voie de passer par le nord, par les États baltes, et rejoindre la mer Baltique. Mais on voit qu'en termes de temps, tout ça peut prendre quand même quelques jours,
alors
quelques semaines.
Alors, vous êtes tous les deux économistes, avec Sylvie Matelli, ça tombe bien, parce qu'il y a cette question donc, de la sécurité. On comprend bien, les détroits sont fermés d'un côté, les ports, je crois, Mykolaïev, pas tous les cités, Mariupol, etc.
Sont détruits, oui.
Odessa, soit détruits, soit sous le feu des tirs de missiles russes, soit minés même d'ailleurs.
Oui, absolument.
Donc ça ne sort pas. Plus la Turquie a verrouillé les détroits.
Alors, la Turquie, là, il y a une phase de négociation avec l'ONU et la Turquie, plus le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, pour voir si on peut débloquer cette situation. Parce que la Turquie, de toute façon, elle a quand même intérêt, étant donné son degré de dépendance vis-à-vis du blé russe et ukrainien.
Oui, sinon elle se pénalise
elle-même. Voilà. Donc il faudrait trouver une solution pour que les navires puissent passer par le détroit de Bosphore, puis des Dardanelles, de façon à rejoindre tout le bassin méditerranéen.
Vous parliez de la Baltique tout à l'heure, et la question peut aussi s'adresser bien sûr à Sylvie Matelli. Est-ce que, parce qu'on a oublié de dire que depuis les sanctions de 2014, la Russie est redevenue un géant agricole. C'est-à-dire qu'ils se sont, on les a sanctionnés, la conséquence a été qu'ils se sont mis à renouer avec ce qu'ils étaient d'ailleurs avant la révolution bolchevique. Ils sont devenus des très puissants. Donc si on additionne Russie plus Ukraine, ça commence vraiment à peser, et notamment sur des pays... l'Égypte, la Tunisie, les pays du Sahel, ça peut être jusqu'à 60, 70%, 80% de leur importation si on a les deux pays.
Oui, les deux pays. Sur l'Égypte, c'est 85% des approvisionnements qui viennent de ces deux pays uniquement, l'Ukraine et la Russie.
Donc là, alerte rouge. Donc ma question est la suivante. Est-ce que la Russie peut exporter avec des céréaliers par la mer sans passer par la mer Noire ?
Elle peut pour l'instant passer notamment par la Crimée
Baltique.
Et puis par la mer d'Azov, mais elle peut aussi par le port de Rostov quand même, mais elle peut aussi utiliser des trains, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait, de façon à rejoindre les ports de sud de la Chine, qui peuvent ensuite avoir accès à la rive de la Méditerranée. Donc,
Le blé fait le tour du monde.
Oui, sauf que là, vous êtes tous les deux économistes, et je m'adresse à vous en tant qu'économiste, ça a des conséquences sur le prix.
Alors ça a des conséquences sur le prix, mais de toute façon, le prix des céréales, comme le prix des matières premières agricoles dans leur ensemble, avait déjà commencé à flamber au moment de la reprise économique qu'on pourrait appeler post-Covid. Même si on n'est pas complètement sorti de ça. Mais donc déjà, on avait eu une augmentation assez significative. Là, le conflit en Ukraine ne fait qu'aggraver, évidemment, cette flambée des prix. Alors ça, c'est un problème, parce qu'il y a non seulement... comme on vient de le dire, les problèmes d'acheminement par la voie maritime, mais il y a aussi, en admettant que on puisse trouver une solution assez rapidement, il y a aussi la question de l'accès par le prix. Et là, les pays structurellement importateurs et très dépendants payent évidemment très cher, d'autant plus que certains d'entre eux, comme la Turquie ou le Liban, ont une monnaie qui a complètement dévissé, et donc ça ne fait que renchérir le coût de l'importation.
Mais là, finalement, on est aussi en train de parler de l'influence des réseaux et de ces informations qui circulent à la nanoseconde. On a ces effets de marché financier qui ont des produits qu'on appelle les futurs, c'est-à-dire c'est des anticipations sur des transactions, sur des achats ou des ventes. On dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, aussi pour Mme Matelli, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, que ces marchés financiers vont avoir un effet de spéculation à la hausse sur ces grains, dans ce contexte-là ?
Alors, il y avait...
Très clairement, pardon.
Allez-y, madame.
Très clairement, et c'est un peu la caractéristique des marchés des matières premières, puisque les marchés à terme ont été créés pour stabiliser les prix des matières premières, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que sur ces marchés des matières premières et des matières premières agricoles, vous n'avez que les déséquilibres, en fait. Vous n'avez que les excès et les pénuries. Et donc, vous avez des tendances d'anticipation à la hausse ou à la baisse qui amplifient, que l'on peut qualifier de spéculatif, hein, et qui amplifient les hausses et les baisses. Moi, je voulais juste rappeler, et ça complète complètement ce qu'a dit M. Pouche, c'est que la plupart des famines, en fait, ne sont pas le résultat de pénuries de produits agricoles. Ce sont le résultat de difficultés d'approvisionnement et de prix trop élevés de ces produits agricoles. Donc, on est vraiment dans cette situation aujourd'hui, avec une situation qui pourrait quand même être encore plus compliquée dans les années qui viennent, parce qu'il y a une partie de la production agricole ukrainienne qui ne sera pas produite probablement dans les mois, voire les années qui viennent, parce qu'il y a la guerre aussi.
Marc Menon.
Ah oui, moi, j'ai une question qui n'est pas tout à fait économique, mais... Les pays qui sont aujourd'hui en dépendance du blé, africain et autres, ils ont sur leur terre d'autres possibilités, le manioc, etc. etc.
Est-ce le sorgho, le mil...
Le sorgho, etc. Et c'était essentiel dans leur façon de se nutrir pendant des siècles. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne devraient pas revenir à cette autonomie, et ce qui permettrait d'éviter ce type de drame?
Bon, alors, déjà, il faut rappeler que pour l'Égypte, elle produit quand même 6 millions de tonnes de blé par an. Mais elle en consomme 18 millions, donc ce qui explique les 12 millions d'importations en moyenne chaque année, qui a fait d'elle le premier importateur mondial. Alors, quand vous dites on peut revenir sur un certain nombre
je
de pays...
Je pose la question.
Oui, non, mais c'est à travers votre question.
C'est une excellente question, parce que...
Il n'y a aucun doute là-dessus. On pourrait revenir à des cultures un peu traditionnelles qu'on avait dans le passé, notamment en Afrique subsaharienne. On est d'accord, mais la difficulté, c'est que le blé apporte quand même plus de protéines végétales pour la consommation humaine que ce type de produit. Et les protéines qui sont contenues dans le blé sont destinées justement à faire du pain. Et dans tout le bassin méditerranéen notamment, on mange énormément de pain. Donc c'est là qu'est le problème.
Les habitudes culturelles.
Il y a des habitudes, et puis encore une fois, il y a le contenu incorporé de protéines dans le blé est bien plus important que les produits qu'on vient d'évoquer.
Et je crois que nos amis tunisiens sont déjà un peu rationnés, non ?
Alors, ils sont rationnés. On ne peut pas acheter autant de pain qu'auparavant pour chaque ménage. L'Égypte est en difficulté parce que on a déjà quelques mouvements populaires sur le prix du pain, qui renvoie d'ailleurs au printemps arabe de 2011. Et par voie de conséquence, le président Sissi envisage d'augmenter les subventions au pain, parce que le pain est très subventionné. Chaque année, c'est 6-8 milliards de dollars de subventions, il envisagerait de les augmenter jusqu'à 10 milliards de façon à calmer un peu la population.
Mais vous dites protéines, d'accord, mais entre pas de protéines et un peu moins de protéines, on devrait prêter ça très bien de se remettre à une certaine culture.
Mais il faut dire qu'il faudrait du temps pour se remettre aussi à reproduire.
Mais c'est parce qu'on parlait de la perspective dans les années à venir.
Donc,
c'est alors là, si vous vous inscrivez dans une trajectoire de moyen terme, effectivement, là, le récupérer une marge d'autonomie alimentaire passerait par la mise en culture
de ces
produits.
Et après tout, gouverner, c'est prévoir, finalement.
Et gouverner, c'est prévoir.
Voilà. Merci infiniment, Thierry Pouche. Je rappelle que vous êtes économiste, chercheur, chef du service des études économiques de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Merci infiniment, Sylvie Matelli. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, à Paris. Et je ne sais pas si vous connaissez l'un et l'autre, ou même Marc, Losint. Qu'est-ce que c'est que l'OSINT ? Alors, on va voir un expert de l'OSINT. Est-ce que, par exemple, si vous êtes assis dans un café, vous avez votre téléphone, vous avez une jeune femme en face de vous qui vous plaît, est-ce que vous pouvez savoir quel âge, quel métier elle fait et quel journal elle lit, par exemple, uniquement en cherchant des informations sur votre téléphone ?
Ah, c'est pas mal, ça.
Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Je savais que ce teasing allait vous plaire. Baptiste Robert, chercheur en cybersécurité et le patron de Predicta Lab, nous dira comment et si c'est possible.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
Bon, bah, je ne vous répéterai pas ce que disait Marc Menon hors antenne, parce qu'on en prenait pour notre grade avec Juliette. Bon, en tout cas, on va terminer cette émission avec un sujet qui nous a fascinés avec Juliette, qu'on a découvert, qui s'appelle l'OSINT. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Pour répondre à cette question, on a fait appel à un expert de l'OSINT. Bonjour à vous, Baptiste Robert.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes chercheur en cybersécurité et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Predicta Lab. Alors, quand on écoute ce nom, Predicta Lab, on se dit c'est quoi ? C'est de la cartomancie sur Internet ? Vous lisez l'avenir dans les algorithmes ? C'est quoi Predicta Lab ?
Alors, pas tout à fait. C'est ce qu'on fait chez Predicta Lab. Ce qu'on fait chez Predicta Lab, c'est qu'on va aller chercher tout un tas d'informations sur Internet qui sont en source publique. C'est-à-dire, c'est des informations qui sont disponibles sans avoir besoin de s'authentifier à quoi que ce soit. C'est vraiment l'information disponible à tous. On récolte ça de manière automatisée afin de pouvoir, par exemple, faire l'audit de l'empreinte numérique de quelqu'un. Donc, à partir de votre nom, prénom, par exemple, on va aller automatiquement, en quelques minutes, chercher toutes les informations qui vous concernent.
Et je vous interromps parce que comme j'ai fait un peu d'osine sur vous, j'ai vu que vous aviez un pseudonyme sur le net. Alors, est-ce que je dois vous appeler Baptiste Robert ou je dois vous appeler FS0 C minuscule 131 Y minuscule ?
Baptiste Robert, c'est plus facile, on va dire.
D'accord. Mais c'est vraiment votre pseudonyme, ça, pour le coup ?
Exactement, c'est F Society en écriture lit, donc l'écriture lit c'est
oui,
un truc de hacker.
C'est un truc de hacker.
Vous êtes un hacker bienveillant, est-ce que ça existe ça ?
Tout à fait, il y a ce qu'on appelle les hackers éthiques et il va y avoir les autres hackers. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs manières en fait d'utiliser ces compétences dans ce domaine-là. On peut le faire pour protéger les entreprises, tester la sécurité des différentes entreprises et protéger la donnée des utilisateurs, ou on peut l'utiliser d'un autre côté pour se faire de l'argent ou pour commettre des actes malveillants.
C'est la magie noire, la magie blanche en fait. Grosso modo, on est d'accord qu'il y a, il y a toujours un monde du renseignement dans les États, qui est un monde particulièrement fermé, énigmatique, enfin qui fonctionne sur le secret, et le renseignement a des techniques pour trouver des informations, recouper des informations. Et vous, ce que vous nous dites, c'est qu'en raison de l'évolution technologique, et notamment de ces petites bêtes-là, et d'Internet, etc., tout un chacun peut se transformer en espion de la NSA ou du service technique de la DGSE, c'est ça ?
Alors, ça va être le renseignement au sens large, il est composé en fait de plusieurs domaines. Et il va y avoir le renseignement humain, renseignement électromagnétique, il va y avoir plein de types de renseignements différents. Et obtenir de l'information, c'est obtenir de l'information à partir de tous ces domaines-là. Et il y a un nouveau domaine, effectivement, qui n'est plus réservé aux services spécialisés, qui est vraiment l'OSINT. Plus
donc l'open source intelligente. Hein.
C'est-à-dire
l'open source intelligence, effectivement. Et ces informations-là, comme elles sont publiques, disponibles à tous, si vous êtes capable d'automatiser la récolte de ces informations, capable d'analyser l'information, vous pouvez effectivement obtenir ce qu'on appelle de l'intelligence. Et l'intelligence, ça va être une information qui va être actionnable et qui va pouvoir être utilisée dans un autre contexte.
Concrètement, comment ça se matérialise ?
C'est-à-dire, peut-on donner quelques exemples ?
Oui, voilà.
Alors, pour être très concret, par exemple, il y a quelques jours, il y a la télévision russe qui a tourné un documentaire autour d'une usine d'armement en Ukraine. Cette usine d'armement, il y a quelqu'un qui a pris. Il y a la télévision ukrainienne qui a tourné un documentaire autour d'une usine d'armement.
D'accord.
Il y a quelqu'un en Russie qui est un passionné d'OSINT qui a pris le documentaire et qui a réussi à géolocaliser où était l'usine d'armement. Quelques heures après, l'usine d'armement a été bombardée.
Oui, donc c'est pas neutre l'usine.
Non, mais c'est très bien, justement, vous m'amenez sur ma question suivante. Est-ce que finalement, c'est pas extrêmement dangereux de confier en quelque sorte le renseignement à tout un chacun
c'est trop tard,
sur Internet, sur comment protéger
Effectivement, ça comporte des gros risques et il faut faire ce qu'on appelle une analyse de risque. Et moi, j'ai été un des premiers avec d'autres personnes de la communauté OSINT en fait de vraiment alerter les gens sur Internet en leur disant attention, c'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez publier les informations sur Internet. Il y a derrière, c'est pas un jeu. Il y a des gens qui meurent, c'est une vraie guerre, il y a des gens qui se battent, et les informations que vous publiez sur les réseaux sociaux sont non seulement observées, mais peuvent être réutilisées par un camp comme par un autre.
Vous comptez sur le sens commun des
tweetos. Ça, c'est dans le cas de la guerre, mais en réalité, c'est même pour les libertés. C'est-à-dire sur ce que vous nous expliquez, c'est que sur les réseaux sociaux, et en utilisant toutes ces devices, comme on dit, toutes ces interfaces, on est comme le petit pousset, on laisse des petits cailloux derrière nous. Et à partir de ces petits cailloux, vous nous dites que presque n'importe qui, enfin, avec des logiciels spécialisés qu'on télécharge, on peut arriver à trouver des informations incroyables sur tout un chacun.
Alors, effectivement, je vais prendre un exemple très simple. Vous avez une vie réelle. Vous allez au travail, vous rentrez chez vous, vous avez des actions dans la vie réelle. Vous avez aussi une vie numérique. Une vie numérique, tous les jours, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre ordinateur, vous vous connectez à des sites internet, vous avez des actions dans la vie numérique. Et vous laissez des petites traces comme ça, et en récoltant toutes ces petites traces, on peut avoir une image, on peut avoir votre empreinte numérique et savoir très précisément qui vous êtes, quels sont vos frères et sœurs, quelle est votre femme, votre mari, quelles sont vos activités, quels sont vos loisirs. On peut avoir votre adresse personnelle et très vite, on peut voir les dérives. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes un homme politique, si vous êtes une personnalité publique, si vous êtes un chef d'entreprise dans un milieu très concurrentiel, on peut imaginer que toutes ces informations, qui sont parfois des informations très personnelles, je suis allé à tel endroit, je suis marié avec tel endroit, mon adresse personnelle est telle et est ici, ça peut poser très vite problème. Et cette nouvelle menace, elle doit être entre guillemets contrôlée, et surtout on doit donner les outils, et c'est vraiment la mission de Predictalab, de donner les outils aux gens pour se protéger et pour réduire leur empreinte numérique quand ils le souhaitent.
Et donc vous avez pesé. Oh, excusez-moi, Marc. Non,
non, inquiétant. Non. Alors il y a deux choses. Je me dis, je vais bientôt me murer très largement en Lozère, dans un endroit où
sans
je
réseau.
Sens Wi-Fi. Voilà, sans Wi-Fi. Mais déjà, je me défie de ça, mais c'est terrifiant parce que dans la logique telle qu'elle est là, si on se projette dans quelques années, on arrive à la Chine qui, elle, déjà concrètement, aujourd'hui, vit sous cette terreur où les uns et les autres ont perdu toute notion de liberté. Alors, la grande chance pour les Chinois, c'est que culturellement, ils n'ont jamais connu la liberté. Mais pour nous, là, c'est terrifiant, ce que vous décrivez. Parce qu'au-delà d'une bonne intention de dire « Attention, ne faites pas si mégaillard, soyez des petits saints », 99%
exactement.
Des gens seront peut-être des petits saints, mais le 1% de salopards, ce sont eux qui agiront.
Oui, est-ce que ce n'est pas un peu utopique de se baser sur le sens commun de tout le monde ?
Je modérerai quand même ceci, dans le sens où il n'y a pas de comparaison avec la Chine ici, dans le sens où ce n'est pas contrôlé par un organisme central, ce n'est pas contrôlé par un gouvernement. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de créer des outils qui permettent de faire de la sensibilisation et qui permettent aux gens de se rendre compte de toutes les informations qui...
Oui,
qui,
mais c'est encore plus grave. C'est-à-dire que tout le monde devient flic, tout le monde devient potentiellement le terroriste de l'autre.
Oui, mais je crois que c'est la raison pour laquelle, notamment, vous me le confirmez ou pas, Baptiste Robert, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas accepter les cookies, en général. Parce qu'on vous demande, exemple, est-ce que vous voulez accepter ou pas les cookies ?
C'est les cookies, il ne faut pas accepter les cookies, il ne faut pas les accepter. Effectivement, tous les bandeaux que vous voyez qui vous apparaissent très rapidement et que vous avez pris l'habitude de ne pas lire, il faut absolument les lire, il faut absolument les refuser. Et surtout, plus largement, il faut se poser les bonnes questions. Dans le sens, si on vous demande, par exemple, sur votre téléphone, une application vous demande l'accès à vos contacts, si sur un site internet, on vous demande votre adresse personnelle, si on vous demande votre numéro de téléphone...
Accéder à votre appareil photo,
ça, c'est quotidien. Quotidien.
Et il faut se poser la question de se dire, ok, est-ce que le service en question, est-ce que l'application, est-ce
on
que le site internet a vraiment besoin et qu'est-ce qui se passe si je refuse? Eh bien, je vais quand même réussir, la plupart du temps, je vais quand même réussir à accéder au service. Et donc, c'est vraiment de se dire de minimiser son empreinte, d'arrêter de donner toutes ces données personnelles, en fait, aux géants du web au sens large, et de se dire, bah, je vais utiliser Internet sans donner une partie de ma vie privée.
Il y a un risque que toutes ces informations se retrouvent un jour dans l'open source intelligence et que n'importe quel tweetos puisse avoir accès à ma vie privée.
Alors, ça dépend du type d'information. Ça dépend du type d'information, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a déjà une industrie de la donnée qui existe. La donnée, et c'est vraiment ça qui est important à dire et redire, c'est que la donnée personnelle a une valeur marchande. Quand vous donnez, par exemple, l'accès à vos contacts, quand vous donnez votre adresse personnelle, celle-ci, derrière, peut être monnayée, peut être remise dans une base de données. Et il y a des gens, donc, c'est les data brokers, c'est leur métier d'aller chercher de la donnée un peu partout, de joindre les bases de données de manière à pouvoir après faire du marketing, vous cibler de manière un peu plus précise. Donc c'est un vrai métier et en fait quand vous donnez accès à vos données personnelles, vous faites la fortune de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est important.
Mais Baptiste Robert, on m'a raconté cette histoire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On m'a dit, regardez, il y a une photographie une photographie prise dans un avion. Cette photographie, elle est publiée sur un réseau. Et la photographie, les gens, les experts de l'open source intelligence récupèrent cette photographie et disent place numéro 26, Boeing 707, 9h26, aéroport de Toulouse, destination Paris, le 14 août. C'est possible, ça ?
Alors, c'est effectivement, donc c'est, j'ai un compte Twitter aujourd'hui où je suis suivi par une grosse communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et c'est le genre de, je voyage beaucoup dans le cadre de mon travail. Et c'est effectivement le genre de challenge que je pose régulièrement sur mon compte Twitter. Et donc, effectivement, à partir d'une photo prise assis sur juste la photo du hublot où on voit les nuages, les gens vont être capables, à partir de la position du soleil, de savoir quand est-ce que le tweet a été posté, savoir que Baptiste Robert, il habite à Toulouse. Ils vont réussir à trouver exactement le vol en reprenant le modèle de l'avion, savoir quel est le siège, etc. etc. Donc c'est vraiment, et je fais ces challenges pour une bonne raison. La raison, elle est de dire, attention, avec une photo qui peut vous paraître anodine, vraiment où il y a zéro information, quelqu'un d'un peu malin, quelqu'un qui a une logique un peu poussée, va être en capacité de retrouver des informations personnelles. Et on peut prendre le même exemple. Vous êtes au restaurant, vous prenez une photo avec monsieur, avec madame, vous êtes chez des amis, vous prenez une photo sur le balcon. On va très très vite pouvoir vous retrouver, savoir où est-ce que la photo a été prise, même si vous n'avez pas cité la localisation.
Eh bien, bon appétit.
Merci.
Baptiste Robert, je vous remercie. Vous revenez quand vous voulez. On rappelle que vous êtes le patron de Predicta Lab. Marc Menant, pas besoin d'OSINT pour savoir que vous avez la carte dans Politique sous influence. Vous revenez vous aussi quand vous voulez. Merci Juliette, merci à tous.
Merci beaucoup.
Politique sous influence vous revient la semaine prochaine pour décrypter les résultats des législatives. En attendant, allez voter demain. C'est Trotsky. Si vous intéressez pas à la politique, elle va s'intéresser à vous. Prenez soin de vous. Retrouvez-nous sur l'appli de Sud Radio sur YouTube. Et maintenant, on va parler auto. Que faire quand la température atteint des sommets caniculaires ? Est-ce que la voiture est protégée de la surchauffe ? C'est la question brûlante à laquelle vont répondre Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. C'est tout de suite.
À la semaine prochaine.